Chapitre 63. Olympos. Olympus Mons, le plus haut de tous les volcans martiens, se dresse à plus de 26 000 mètres au-dessus des plaines environnantes et du nouvel océan s'étendant à ses pieds. Au niveau de la mer, son assiette mesure plus de 600 km de diamètre. Il atteint une hauteur triple de celle du mont Everest, le plus haut sommet de la Terre. Ses flancs, que la neige et le givre parent de blanc durant la journée, sont bariolés d'une couleur proche de celle du sang par le soleil couchant. Les falaises déchiquetées qui bordent le géant sur sa face nord sont hautes de plus de 5000 mètres. Ce jour-là, sa longue ombre portée s'étend quasiment jusqu'à la chaîne formée par les trois volcans de Tarsis perdus dans l'horizon flou. L'escalator à grande vitesse qui sinuait naguère sur les flancs d'Olympos a été tranché en deux juste au-dessus des falaises aussi proprement que par la lame d'une guillotine. Un puissant champ de force à sept couches généré par Zeus en personne, l'Égide, protège la totalité d'Olympus Mons et la lumière rougeoyante du soir le fait chatoyer. Par-delà les falaises, là où les vagues de l'océan boréal apparues 150 ans plus tôt durant la terraformation viennent lécher le pied d'Olympos, un bon millier de dieux se sont rassemblés pour le combat. Une centaine de chars en or, propulsés par des forces invisibles, mais tirés par de puissants étalons bien visibles, fournissent une couverture aérienne aux déités en armure dorée réunies sur les hautes plaines et les plages de Galée. Zeus et Héré ont pris la tête de cette armée d'immortels. Tous deux semblent mesurer 6 mètres de haut. Ils sont resplendissants avec leurs armures, leurs armes et leurs boucliers martelés par Héphaïstos et les autres dieux artisans. Les casques de Zeus et d'Héré sont forgés dans l'or pur, bourrés de micro-circuits et renforcés d'alliages dernier cri. Si Athénée et Apollon sont temporairement absents de cette divine phalange, les autres dieux et déesses ont tous répondu présents. Aphrodite est là, superbe dans sa tenue de guerre. Son casque est incrusté de pierres précieuses. Son arc minuscule tire des flèches en cristal dont la pointe creuse contient des vapeurs méphitiques. Arès est là, souriant de toutes ses dents sous son casque au cimier rouge, se réjouissant à l'avance du bain de sang à venir. Il est armé de l'arc d'argent d'Apollon et d'un carquois empli de flèches à tête chercheuse. La mort et la destruction sont promises à toutes les cibles qu'il choisira. Poséidon est là, l'ébranleur du sol, gigantesque, sombre et puissant, vêtu de son armure pour la première fois depuis des millénaires. 10 hommes de la force d'Achille seraient incapables de soulever la hache massive qu'il tient dans sa main gauche. Hadès est là, plus sombre d'armure et de contenance que Poséidon lui-même, les yeux ardents dans les ténèbres sous la visière de son casque. Perséphone se tient auprès de son seigneur et maître, caparaçonné de lapis-lazuli, tenant dans ses longs doigts pâles un trident de titane barbelé. Hermès est là, élancé et meurtrier, enveloppé dans une carapace d'insectes rouges, prêt à se téléporter au sein de la mêlée, à frapper et à disparaître avant que les mortels l'aient seulement vu arriver, ne pouvant que constater le carnage qu'il laisse dans son sillage. Thétis est là, les yeux rougis d'avoir tant pleuré, mais portant elle aussi sa tenue de bataille et prête à tuer Achille, son propre fils, si Zeus lui en donne l'ordre. Triton est là, vêtu de plusieurs cottes noires et vertes, c'est le satyre oublié du vieux monde. Un monstre aimant jouer de la flûte et violer les fillettes comme les garçonnets, un dieu prenant plaisir à jeter dans les profondeurs les corps des enfants quand il a fini de les tourmenter. Artémis est là, la déesse de la chasse, en armure dorée, tenant fermement son arc, impatiente de faire couler le sang des hommes pour venger l'offense faite à Apollon, son frère bien-aimé. Héphaïstos est là, saint de flammes et prêt à porter le feu dans le camp ennemi. Tous les dieux sont là, exception faite d'Apollon et d'Athénée, toujours en cuve de soins, rangée après rangée de puissantes silhouettes en armure, attendant en silence à l'ombre des falaises. Au-dessus d'eux, d'autres déités tournent en rond dans leurs chars. Et au-dessus de tout cela, l'égide chatoyante, une arme à la fois offensive et défensive, dont l'énergie va croissant. Dans le No Man's Land tout proche, par-delà la ligne où l'égide chatoyante disparaît dans la pierre, formant une sphère dont la surface s'étend sous le sol martien, gisent les cadavres des Cerbérides. Les deux créatures canines et bicéphales, longues de 6 bons mètres, pourvues de dents en acier chromé et d'un groin recelant un spectrographe de masse, sont restées là où Achille et Hector les ont tuées, juste après avoir débarqué sur Olympos quelques heures plus tôt. À une trentaine de mètres des Cerbérides, on trouve les ruines calcinées des baraquements scoliastes. Un peu plus loin se déploient les armées de l'humanité, qui comptent dans leur rang un peu plus de 120 000 guerriers. Les forces d'Hector se tiennent en rang serré à l'intérieur des terres, 40 000 des plus braves parmi les Troyens. Paris est resté à l'arrière, son frère lui ayant confié le commandement d'Ilium, ainsi que la lourde responsabilité de la protection de leur foyer et de leur famille. Ceux-ci sont abrités par le champ de force Moravec, mais Hector accorde plus de valeur aux armes et au courage humain. Les autres capitaines sont tous là, à la tête de leurs contingents respectifs. Près d'Hector se tient Déiphobe, le frère le plus valeureux du commandant en chef troyen, à la tête de 10 000 lanciers triés sur le volet. À ses côtés, on trouve Énée, bien résolu à forger lui-même son destin à présent qu'il a renié les dieux. Derrière les guerriers d'Énée se tient le noble Glaucos, à la tête de ses chars et de ses 11 000 Lyciens assoiffés de sang. Ascagne d'Ascanie, commandant phrygien, est là lui aussi, jeune capitaine caparaçonné de bronze et de cuir, impatient de se couvrir de gloire. Ses 4 200 Assaniens sont prêts à faire couler Lycor, puisque les immortels n'ont pas de sang. Derrière les guerriers troyens, trop vieux et trop précieux pour conduire les hommes au combat, mais armés de pied en cap et prêts à mourir si telle est la volonté de l'univers, sont rassemblés les rois et les conseillers d'Ilium. Le roi Priam en personne, vêtu de sa légendaire armure forgée dans un antique météore, puis le vieil Anténor, géniteur de maints héros troyens, dont la plupart ont déjà péri au champ d'honneur. Près d'Anténor se tiennent les frères honorés de Priam, Lampos, Clytios et Iquétaon à la barbe grise, qui jusqu'à ce jour a honoré Arès entre tous les dieux. Et derrière Iquétaon, deux des plus vénérables parmi les sages troyens, Panthous et Timoïtès. Accompagnant ces nobles vieillards, les yeux fixés sur son époux, vêtue de rouge comme si elle portait à jamais la couleur du sang et du deuil, c'est la belle Andromaque, l'épouse d'Hector, la mère du martyr Scamandrios, le bébé que les habitants d'Ilium avaient surnommé Astyanax, le maître de la ville. Au centre de cette file de 5 km de long, à la tête de 80 000 Achéens rompus au combat, se dresse le splendide Achille, fils de Pélée, tueur d'hommes. On le dit invulnérable, mais il aurait une faiblesse tenue secrète. Ce soir, dans sa tenue de guerre, investi de l'énergie surhumaine que confère une rage presque inhumaine, il semble immortel. La place à sa droite est restée vide en mémoire de Patrocle, le plus valeureux de ses camarades et le plus cher de ses amis, sauvagement assassiné par Pallas Athénée moins de 24 heures plus tôt. Derrière lui, sur sa droite, on découvre une surprenante troïka formée par Agamemnon, Ménélas et Odysseus. Les deux Atrides portent encore les stigmates du combat singulier qui les a opposés à Achille, le bras gauche de Ménélas étant trop dolent pour tenir un bouclier. Mais les deux chefs déposés ont tenu à être présents aux côtés de leurs capitaines et de leurs hommes. Odysseus, apparemment perdu dans ses pensées, considère les forces en présence, humaines et immortelles, et se gratte la barbe. Dispersés dans les rangs achéens, sur leurs chars ou à pied, mais toujours à la tête de leurs hommes, on trouve les héros grecs ayant survécu à 9 ans d'un amer conflit. Diomède, vêtu de sa peau de lion et portant son gigantesque gourdin. Ajax le Grand, colosse entre les colosses, dominant ses sujets de la tête et des épaules. Et Ajax le Petit, commandant un bataillon de tueurs locriens. À un jet de pierre de ses héros se tient Idoménée, maître du maniement de la javeline, à la tête de ses guerriers crétois et non loin de là, Mérion, fidèlement dressé sur son char, prêt à se lancer à l'attaque en compagnie de Théoucros, le demi-frère d'Ajax, le maître archer en personne. Sur le flanc droit des Achéens, près de l'océan, plusieurs rangées d'hommes en armure tournent leurs têtes casquées vers leur chef, le plus âgé des rois achéens, le rusé Nestor, dompteur de cavale. Si Nestor a ainsi pris les devants, bien visible avec sa cape rouge et son quadrige, c'est pour être le premier à affronter les immortels, ou le premier à périr. Tout près de lui, aussi impatient d'en découdre que leur père, on aperçoit ses fils, Antiloque, le fidèle ami d'Achille, et Trasimède, encore plus grand et plus beau que son frère. 100 autres capitaines sont présents en ce jour, chacun portant fièrement son nom et celui de son père, commandant à eux tous des dizaines de milliers d'hommes, dont chacun possède un nom noble et une histoire complexe, dont chacun porte fièrement le nom de son père, dans un combat qui lui apportera la gloire et la vie, à moins qu'il n'emporte ce nom avec lui dans le royaume des morts. À droite des Achéens rassemblés, déployés sur le rivage sans ordre bien défini, observant un silence total, on trouve plusieurs milliers de Zex, des petits hommes verts débarqués de leurs barges, de leurs felouks, de leurs grêles voiliers, venus de la mer de Tétis et de la mer intérieure de Valles Marineris, présents ici pour des raisons connues d'eux seuls, et peut-être de l'avatar Prospero ou du mystérieux dieu nommé Cétébos. Ils se tiennent le long des vagues mourantes, et ni les Grecs, ni les Troyens, ni les dieux immortels ne les ont encore approchés. Au large voguent plus d'une centaine de nefs achéennes, dont les voiles sont colorées de rose par le couchant et dont les rames reflètent l'éclat doré de la mer. Mais on a amené les voiles, on a relevé les rames, et les flancs de ces nefs sont maintenant hérissés de lances. Des 3000 guerriers massés sur leurs ponts, on ne distingue que des casques étincelants et des cimiers jaunes, rouges, pourpres et bleus. Entre les nefs, on voit des ailerons noirs fendre les eaux mordorées. Reconnaissables à leur périscope ou parfois à l'extrémité de leur kiosque, trois sous-marins lance-missiles de fabrication Rokvec croisent dans l'océan martien. L'infanterie Moravec s'est déployée sur 3 kilomètres derrière les troupes troyennes et achéennes. 27 000 fantassins à l'armure noire et aux membres d'insectes, équipés d'artillerie lourde et légère. Les Moravec de la ceinture ont disposé leurs batteries à 15 kilomètres du front, braquant tubes et projecteurs sur Olympos et sur les immortels. Au-dessus des armées humaines et Moravec patrouillent 116 frelons surarmés, certains en mode furtif, d'autres aussi visibles et aussi noirs que lors de leur émergence. Selon les Moravec de la ceinture, 65 spationnefs de combat sont en orbite autour de Mars, de l'ionosphère, à une altitude supérieure de plusieurs millions de kilomètres aux orbites de Phobos et de Deimos. Le commandant des forces terrestres, Rokvec, a fait son rapport à Manmuth, le Moravec d'Europe, qu'il a traduit pour le bénéfice d'Achille et d'Hector. Toutes les armes de ces spationnefs, des bombes aux missiles en passant par les champs de force et les armes énergétiques, sont verrouillées sur leur cible. Comme ce rapport ne signifie strictement rien pour les deux héros, ils n'en ont pas tenu compte. Non loin d'Achille, à droite d'Odysseus et des Atrides, mais un peu à l'écart se tiennent Manmuth, Orphu et Oakenberry. Un peu plus tôt dans l'après-midi, après avoir jeté un coup d'œil aux armées antagonistes, Manmuth, sollicitant l'aide de Périme, a réquisitionné un char afin de tracter Orphu, toujours porté par le harnais de lévitation, à travers le portail quantique. Comme un vulgaire poids lourd et sa remorque, pour citer l'intéressé. Manmuth ignore le sens de cette expression. Ses archives relatives à l'argot de l'air perdu sont moins fournies que celles de son ami. Mais il s'est promis de le dénicher un de ces jours. À condition qu'il survive. Le scoliaste Thomas Oakenberry, PhD, porte l'armure et la tunique d'un capitaine troyen et, quoique tout excité d'être là, il semble ne pas tenir sur place. Tandis que les milliers de guerriers entourant Achille attendent patiemment que les deux armées, l'humaine et l'immortelle, aient fini de former les rangs, Oakenberry ne cesse de danser d'un pied sur l'autre.
« Il y a quelque chose qui ne va pas, »
murmure Manmuth en anglais.
« J'ai l'impression qu'il y a une bestiole dans mon slip, » lui répond Oakenberry.
Les armées sont rassemblées. Il règne un silence surnaturel. On n'entend aucun bruit, hormis le lent murmure des vagues roulant sur les galets, le gênement d'un cheval harnaché à un char, le souffle délicat de la brise martienne dans les falaises d'Olympos, le sifflement des chars divins dans les airs et le bourdonnement plus accentué des frelons, le choc occasionnel du bronze sur le bronze lorsqu'un soldat change de position, et cette absence prégnante que produisent des dizaines de milliers d'hommes tendus, s'efforçant de ne pas oublier comment respirer normalement. Zeus s'avance, passant au travers de l'Égide comme un géant passant au travers d'une cascade. Achille pénètre dans le No Man's Land pour faire face au Père des Dieux.
« As-tu quelque chose à dire avant de mourir, toi et le reste de ton espèce ?» demande Zeus.
Il a pris le ton de la conversation, mais le volume est tellement fort que sa voix porte jusqu'aux confins du champ de bataille et même jusqu'aux nefs achéennes. Achille marque une pause, se retourne pour contempler les hommes massés derrière lui, refait face à Zeus, considère Olympos et les dieux qui se dressent devant lui, puis incline la tête sur le côté pour regarder le roi des dieux droit dans les yeux.
« Rendez-vous, » dit Achille. « Et nous épargnerons vos déesses pour faire d'elles nos esclaves et nos courtisanes. »